Sans plus attendre, je vais donner la parole à Laurent.
Merci, Daniel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter déjà. Donc, Laurent Seguin, je suis le maire de la station verte de Fauconnier et la mer, à 600 km de toute mer réelle, mais ça s'appelle Fauconnier et la mer, parce que nous sommes dans une région du massif des Vosges qui a un plateau, le plateau des Mille Étangs, pas très loin de la planche des Belles-Filles, que certains connaissent, en tout cas les cyclistes, qu'on aura sans doute encore la chance d'accueillir le Tour de France, nous aussi, l'année prochaine. Et donc, cette racine mère vient tout simplement du latin, marais, marécage. Il faut l'entendre comme ça. C'est un plateau percé d'innombrables étangs, de tourbières et de zones humides. Et donc, on est au nord du département de la Haute-Saône, mais on est dans le massif des Vosges et on est également dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, que j'ai le plaisir de présider. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'une démarche qui s'appelle la quiétude-attitude. Alors, je crois que j'ai la main sur le diapo. Ah, il n'est pas ouvert. Oui, voilà. Celle du bas. Très bien. OK. Donc, la quiétude-attitude, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est moi. On va le mettre en plein écran, je pense. Voilà, ça demande un petit peu peut-être de fluidité. Il faut que j'attende qu'elle soit totalement affichée. Et voilà. La quiétude-attitude, donc avec un slogan « sauvagement responsable ». Qu'est-ce que c'est? Donc, le parc naturel régional des Ballons des Vosges, il faut le situer. Il est installé sur 4 départements. Les Vosges, bien sûr, le Haut-Rhin, le territoire de Belfort et la Haute-Saône. Il est situé sur 2 grandes régions aujourd'hui, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, autrefois sur 3, il y avait Lorraine et Alsace. Et il comporte 200 communes, 201 exactement. Donc un grand territoire de 252 000 habitants, donc plus que le département de la Haute-Saône à lui tout entier. Et donc c'est un département en plus où la crête est très accessible. Et il y a déjà tous ces habitants qui ont besoin d'un bol d'air et d'un ballon d'oxygène dès qu'ils le peuvent et qui vont se promener sur la ligne de crête. Et cette crête, il faut savoir qu'elle est parcourue par une route qui a été créée par les Américains, juste en deçà de la crête, pour être un petit peu à l'abri du regard des Allemands à l'époque. Et donc, c'est une route très fréquentable et qui est utilisée par de trop nombreux véhicules, sans doute. Ça, c'est pour le contexte. Donc, je vous le disais, on doit accueillir, bien sûr, déjà ces 250 000 habitants qui ont besoin d'activité. On a autour 7 villes et agglomérations portes, dont certaines très importantes, comme Colmar, Mulhouse, puis d'autres plus petites, Luxeuil, Lure, Remiremont, Saint-Dié. Et donc, ces gens-là sont aussi friands d'activités de montagne, d'activités de pleine nature. Et on constate qu'on arrive, alors certains appellent, crient au loup, on va dire, et trouvent qu'il y a maintenant un surtourisme sur le parc des Ballons des Vosges. Donc c'est vrai que nous sommes attractifs, c'est vrai qu'il y a de nouvelles activités, vous avez quelques exemples ici, plus l'avènement de certains véhicules électriques qui facilitent encore l'accessibilité à des personnes qui ne sont pas forcément sportives de cette crête. Et pour les pays nordiques, et puis le Benelux, nous sommes quand même la première montagne sur leur route lorsqu'ils descendent vers le sud, et donc ils ont souvent envie de s'arrêter également chez nous. Bien sûr, aux activités estivales s'ajoutent les activités hivernales. La neige est encore assez présente, au-dessus de 1000 mètres, et donc parmi les activités hivernales, il y en a une qui est la raquette, qui permet d'aller également tout partout, et c'est assez, ça peut être préjudiciable si on n'y prend pas garde. Dans le même temps, les routes ont été multipliées. Et je parle de routes qui sont accessibles à des véhicules, donc qui sont au moins empierrées. Là, vous avez une comparaison entre les routes noires qui existaient en 1923, sur un exemple de massif, et puis celles qui existent en 2020. Vous voyez que le maillage a été largement augmenté. Bon, bien sûr, pour permettre ce qui est logique aussi, l'exploitation forestière. Elles ne sont pas toutes ouvertes à la circulation, fort heureusement. Mais il y en a quand même un certain nombre, et même s'il y a des barrières, vous savez que lorsqu'elles ne sont pas baissées, il y a des gens qui ne les voient pas. Les espèces que nous devons protéger, qui sont assez emblématiques du massif, vous en avez quelques exemples ici, avec le hibou grand-duc, le grand corbeau, le grand tétra au milieu, bon, les chiroptères, je vous dirai pas c'est laquelle, celle-là, chauve-souris, le chamois, bien sûr, le faucon pèlerin, le lièvre, et puis bien d'autres espèces qui sont peut-être moins emblématiques, mais qui souffrent du dérangement, dont certaines sont dans des habitats qui sont faciles à fréquenter, comme le grand tétra dans les forêts, mais le grand-duc, par exemple, et le faucon pèlerin, qui sont des espèces rupicoles qui vivent sur les rochers, peuvent être dérangés par certaines activités, parce que l'escalade est quelque chose de très présent dans les Vosges. Le grand tétra, c'est le plus emblématique. Celui-ci souffre du dérangement, surtout en hiver, parce que son régime alimentaire en hiver, ce sont des pousses de pin ou des bourgeons de hêtre qui sont très peu énergétiques. Et puis, si on le dérange plusieurs fois dans une même journée quand il fait très froid, le grand tétra peut tout simplement mourir parce qu'il aura dépensé plus d'énergie qu'il aura eu la capacité d'en engranger. Suite à ce constat, et un contexte très particulier dans les Vosges, on avait aussi un maillage de sites Natura 2000 avec des ZPS, zones de protection spéciale, et puis des ZSC, zones spéciales de conservation. Donc les unes pour les habitats, les autres pour les espèces. Donc un beau maillage. Là, vous voyez les trois couleurs avec les trois versants. Donc en bleu, le versant alsacien, en rouge, le versant vosgien, et en vert, en bas, le versant franc-comtois. Donc ça représente des surfaces importantes. C'était l'ère de présence du tétra en 1975. C'est une base de discussion pour mettre en place ensuite des secteurs de quiétude. Donc il y a eu 40 secteurs. Et dans chacun de ces secteurs, deux réunions, donc 80 réunions avec des professionnels du tourisme, des hébergeurs, des représentants d'associations aussi, pour essayer de définir ensemble et en toute concertation les zones qu'il conviendrait d'éviter à certains moments de l'année. On y reviendra. Suite à ça, est apparu un zonage quand même avec des préconisations, donc avec des enjeux particuliers donc pour GT, donc le grand tétra. Et donc, avec plusieurs niveaux d'enjeux qui sont représentés ici par des couleurs. Je n'entrerai pas forcément dans le détail. Et puis, bien sûr, des préconisations propres à chacun de ces secteurs, à chacune de ces couleurs, avec des choses assez dures dans des zones de quiétude stricte, où il n'y a bien sûr jamais de manifestations motorisées. On supporte tout ce qui existait avant la création de la zone de quiétude, parce que c'était là, et voilà, c'est une valeur historique. On interdit toute nouvelle manifestation. Et puis, ensuite, bien sûr, des actions un petit peu différentes en fonction des métiers. Par exemple, les forestiers qui s'interdisent d'aller marquer des coupes de bois ou d'exploiter ces coupes de bois dans une certaine période de l'année pour préserver la quiétude des oiseaux. Alors, ça remonte déjà à quelques années. C'est en 2014 qu'on a lancé le programme Quiétude Attitude. Alors, on n'a pas forcément tout inventé parce que nos voisins suisses avaient une démarche un petit peu similaire qui s'appelait respecter et protéger. Suite à ça, on a fait un sondage sur le territoire avec des entretiens individuels sur les têtes de réseau, puis une analyse quantitative pour tirer un petit peu les enseignements de ce que pensaient les acteurs du territoire. On en a interrogé 600. On a eu un taux de réponse de 20%. Pour ce type d'études, c'est plutôt bien. Voilà. Alors c'est flou, hein, on ne voit pas, mais en haut, c'est surtout des hébergeurs et des restaurateurs qui ont répondu avant tout, parce que c'est eux qui vont aussi guider les publics et qui sont nos ambassadeurs sur le territoire. Quelques réponses aux questions donc par rapport à ces métiers. Donc 50% des questions portaient sur la quiétude. C'est le public hein, de ces hébergeurs, de ces professionnels qui posent des questions sur la quiétude avec la faune sauvage, avec la réglementation aussi. Les gens sont assez curieux quand même de savoir quelle est la réglementation. C'est ce qui nous guide aussi dans la démarche parce qu'ils n'ont pas forcément la volonté de faire mal. Mais seulement 12% des répondants avouent qu'ils connaissent bien les espèces animales menacées du territoire. Donc, il y avait besoin d'éducation aussi de ce côté-là. mais ils ont vraiment une envie de mieux connaître la faune sauvage pour pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées. 70% ne connaissent pas ou très peu les règles et préconisations relatives à la quiétude attitude. C'est normal, on est au début de la démarche et donc on a besoin que tout se mette en place et de créer les outils de communication sur cette démarche. 80% pensent qu'une information annuelle sur les bonnes pratiques pourrait leur être utile, une petite piqûre de rappel chaque année. Et puis un tiers des répondants informe déjà son public sur ses préconisations relatives à la quiétude de la faune sauvage. Les principaux freins sont le manque de connaissances, le manque d'outils de communication, le manque de formation et quelquefois le manque de temps, d'où l'envie de créer une démarche qui puisse répondre à ces freins. Voilà, donc les outils qui seraient plébiscités, donc ce sont, alors là j'ai du mal à lire, hein, donc ils demandent des guides, ils demandent des cartes surtout, des posters, voilà, des choses qu'ils puissent mettre dans leurs établissements pour informer le public. Des bénéfices, 61% souhaitent apporter un meilleur conseil à leurs clients et 35% souhaitent véhiculer une image plus responsable de leur structure, de leur activité. Et voilà qu'en 2016, sur les bases des résultats de cette étude, on crée une identité visuelle avec ce slogan « sauvagement responsable » qui est un petit peu voilà, paradoxal, mais qui touche bien et que tout le monde connaît maintenant dans le massif. Et on a défini un programme. Les visuels, qu'on voit tout partout. Les objectifs de ce programme qui ont été définis, donc communiquer sur l'existence des zones de quiétude à l'échelle du territoire du parc, présenter les bons réflexes à adopter pour préserver la tranquillité de la faune sauvage et mobiliser les professionnels du tourisme et des loisirs pour assurer un relais vers le grand public. On passe à travers les professionnels, bien sûr, mais à terme, on vise tout le monde, y compris, bien sûr, je pense par exemple à la personne qui va ramasser des champignons. Celui-là a besoin aussi de l'information, comme les professionnels qui organisent des manifestations de grande ampleur et qui emmènent quelquefois plusieurs dizaines de pratiquants sur les sentiers. On a ensuite défini le programme de la quiétude attitude sur 2017-2018. On a créé un site internet qui est assez simple, il est facile d'accès. Alors, je le disais, hein, il est au départ plutôt pour les professionnels. Ça va leur servir de base pour créer leur activité, créer leur projet et ensuite guider les publics. On présente le programme et puis on adopte des règles par rapport à la quiétude attitude, des règles tout simplement de bonnes pratiques qui sont lisibles sur quelques pages où il n'y a pas énormément de texte de notre programme. Voilà, on a 5 bons réflexes à adopter. Je prends connaissance des zones de quiétude et de la réglementation. Alors, je reste sur les itinéraires balisés dans les zones de quiétude. Je respecte le silence de la nature. Et puis, là, je n'arrive pas à le lire. Voilà, bien sûr, les chiens doivent être tenus en laisse, à minima. Il y a même certains secteurs où les chiens, même en laisse, sont interdits, mais ce sont des vieilles réserves anciennes où la réglementation était plus facilement acceptable qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus tolérant, c'est plus difficile d'interdire totalement les animaux. Et puis, je privilégie les activités en journée, en laissant la quiétude, bien sûr, la nuit. Les bonnes pratiques, alors tout ça, ce sont des choses cliquables sur le site internet qui vous emmènent sur les différentes activités et des bons réflexes spécifiques pour chacune de ces activités. Évidemment, il y a en bas les activités motorisées, mais ceux-là, elles sont autorisées sur les routes départementales et puis point, c'est tout. Hein. Ensuite, on a fait le pari, contrairement à ce qu'on faisait jusqu'à présent, où quand il y avait une espèce rare quelque part, on cachait l'information en pensant mieux la protéger. Mais il se trouve que, du coup, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément mal intentionnés et qui pouvaient se retrouver dans des zones de quiétude alors que ils ne pensaient pas y être, ils ne pensaient pas faire mal. Et en plus, on pouvait penser qu'ils étaient de bonne foi, même si certains avaient l'info et lorsqu'ils étaient un peu contrôlés, ben, ils disaient ben non, je ne sais pas. Et puis, on ne pouvait pas leur donner tort, il n'y avait pas d'information ni sur le territoire, et il n'y avait pas d'outils internet pour localiser ces zones. Voilà, et on descend dans une échelle très précise avec différentes couleurs. Et vraiment, le massif, c'est une carte interactive. Hein, on peut zoomer très haut. Et tous les détails sont à l'écran avec les chemins qu'il convient d'éviter. Il faut savoir que le parc il donne des avis sur les manifestations sportives qui ont lieu dans le massif. Et chaque année, on donne 200 avis. Alors, avec les professionnels qui nous consultent depuis très longtemps, on n'a pas trop de soucis parce qu'il y a longtemps qu'on a instillé quelques règles et puis ils les respectent. Ils ont le réflexe de nous consulter très en amont. Si à un moment donné, ils passent dans une zone où on ne souhaite pas qu'ils aillent, on leur dit, on se met autour de la table, puis on cherche un itinéraire alternatif pour éviter les désagréments. Mais du coup, ça, tout le monde peut également aller le voir pour ses propres déplacements individuels. Voilà. Alors ensuite, bien sûr, les partenaires qui sont avec nous s'engagent. Bon, on a tous les grands partenaires. On a le club vosgien qui est incontournable. On a la fédération de randonnée pédestre et d'autres qui sont des partenaires plus locaux qui s'engagent à nos côtés. Ensuite, on a défini un programme sur 2019-2021. Donc nous y sommes et on a créé aussi du papier parce que tout le monde n'a pas l'accès à Internet en permanence, surtout lorsqu'il est sur le terrain. Donc on a créé une carte papier sur laquelle on retrouve également les zones de quiétude avec les nuances de couleurs et puis un petit descriptif des espèces et des bons réflexes à adopter. Voilà, des autocollants, des flyers, des petits dépliants et puis des posters qui ont été diffusés donc dans tous les sites d'accueil, les offices de tourisme, les restaurateurs, dans les gîtes, etc. Et encore des posters plus grands où on voit les espèces. Alors là, on est très sérieux à ce moment-là. Hein. Vous verrez que plus tard, qu'on a des outils de communication un petit peu plus décalés. Voilà, puis on fait évoluer régulièrement le site Internet avec une traduction en anglais et en allemand dès cette année parce que bon, on reçoit beaucoup de touristes qui viennent d'Outre-Rhin, qui ont la forêt noire, mais qui aiment aussi les Vosges. Voilà, donc un exemple de module qui est exportable. C'est donc un professionnel qui propose une activité. Donc, il est en bordure de zone de quiétude. Et selon la période de l'année, il n'est pas forcément dérangeant. Et on peut l'autoriser à passer dans une zone de quiétude si c'est un moment de l'année où il n'y a pas de nichée, où il n'y a pas de reproduction. Et donc, ce n'est pas rédhibitoire d'aller dans ces zones-là. Dans le même temps, le parc a créé des postes de médiateurs de la nature. Ils sont financés par l'État, donc 8 l'an dernier. Et l'État a trouvé les moyens de nous en financer d'autres. On espère monter à une vingtaine de médiateurs pour couvrir l'ensemble du parc naturel régional. Donc ces gens, ils vont au contact des publics. Vous voyez, ce sont des jeunes, ils sont souriants, donc ça passe bien. Ils donnent quelques infos, ils ne sont pas dans la répression, ils sont dans l'information et la pédagogie. Et c'est très bien perçu par les publics. Et puis, nous avons encore quelques perspectives de développement de ce programme Quiétude Attitude. Donc là, vous voyez, c'est là où on est un peu plus décalé. Ce sont des grandes affiches, ça, qu'on met dans les lieux. Et en fait, le message, il est simple. Vous aimeriez pas avoir un cerf dans votre salle de bain, un tétra qui vient manger la tarte aux myrtilles sur votre table, un chamois qui saute sur votre lit. Et donc, bon, respectez-les. De la même façon qu'eux vous respectent. Et donc ça passe pas mal et c'est pas mal partagé sur les réseaux sociaux. Voilà, donc notre campagne, elle est aussi digitale sur YouTube, donc sur les réseaux sociaux, comme je le disais. Et donc on touche un grand public, on va dire, de 7 à 97 ans. Voilà, et sur le terrain, on complète maintenant avec un programme parce que l'info, les gens peuvent la trouver sur Internet, sur le papier. Mais c'est bien aussi, lorsqu'ils sont sur un site et sur le terrain, de rappeler par d'une signalétique dédiée qu'il y a des zones à ne pas franchir, qu'il y a un sentier dont il ne faut pas s'écarter. Et donc, on appelle au respect. Et donc, pourquoi sauvagement responsable ? À la responsabilisation des publics vis-à-vis de cette zone sauvage, de cette faune sauvage. Et puis, quand il le faut aussi, carrément, des choses en travers de certains sentiers qui, en hiver, ne doivent pas être fréquentés. Voilà. Les publics, ils sont, sauf celui qui est un petit peu trop quiche, en général, voilà, ils comprennent bien et ils respectent. De toute façon, c'est basé vraiment sur le message. C'est à vous de respecter la faune. On vous donne l'info, on vous fait confiance. On sait qu'avant, vous n'étiez peut-être pas tout à fait dans les clous, mais que ce n'était pas par volonté. Aujourd'hui, vous avez toute l'information. Donc, si vous êtes au-delà des limites à respecter, c'est que vous avez fait quand même un petit peu fait exprès de ne pas voir les informations qui sont diffusées tout partout. Alors, c'est une démarche qui part du parc naturel régional des Ballons des Vosges que vous avez donc en bas à droite, que les Vosges du Nord ont adopté également. Et à l'échelle du Grand Est, donc les 6 parcs naturels régionaux se sont emparés de cette démarche. Et la région Grand Est elle-même s'en inspirera pour les zones qui ne sont pas forcément situées dans des parcs. Donc voilà, cette démarche, elle est faite pour vivre. Bon, une question budgétaire, c'est vrai que ça coûte au total quelques centaines de milliers d'euros, mais on estime que c'est de l'argent bien placé au regard de certains programmes qui visent aussi à sauvegarder, voire à renforcer les populations de certaines espèces et qui peuvent coûter beaucoup plus cher que ces sommes-là. Voilà, donc la présentation de la quiétude attitude. Et puis donc, vous ne m'avez pas interrompu, vous auriez pu le faire. Et puis maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Voilà.
C'est aussi calme que hier après-midi. Mais merci. Voilà, merci Laurent, très très complet cette présentation. Merci à toi. Ce qui m'interpelle moi, c'est j'étais président d'une zone Natura 2000 pendant une douzaine d'années et j'ai ressenti l'inquiétude des habitants concernant une zone Natura 2000. Ça vient de Bruxelles. L'Europe, c'est ça, on nous impose encore des prescriptions, on nous impose ceci, cela comme règlement. Alors on a du mal à faire accepter ça, même chez nos collègues élus. Alors c'est quand même un travail de longue haleine pour faire accepter, et comme tu l'as dit, pour présenter ça d'une façon synthétique et simple à comprendre. Voilà, c'est un peu mon ressenti. Hein.
Alors, par rapport au réseau des espaces Natura 2000, donc c'est effectivement un réseau européen, l'Europe a demandé à tous les pays de la communauté de repérer et d'identifier ces zones donc pour pouvoir protéger notamment les habitats des espèces, mais aussi les espèces. Il se trouve que les pays européens l'ont appliqué de façon différente. Par exemple, en Espagne, c'est l'État qui a dit, voilà, je mets une zone Natura 2000 là, et puis je mets la réglementation qui va avec, et puis c'est comme ça. En France, l'État a quand même dit, il faut que ça vienne du terrain pour que ce soit acceptable. Donc c'est les élus qui se sont réunis, qui ont défini les périmètres de ces zones et qui ont dû les adopter en conseil municipal. Voilà, donc ça vient d'une volonté du terrain, et il faut quand même rappeler que c'est une démarche contractuelle. C'est-à-dire que, comme tout contrat, il faut qu'il y ait deux signatures en bas, celui qui demande des choses, celui qui s'engage à les respecter. Et en France, il y a des contreparties financières. Sincèrement, dans le massif des Vosges, s'il n'y avait pas l'argent qui arrive de l'Europe pour Natura 2000, avec les mesures agro-environnementales, notamment, qui sont dédiées maintenant uniquement sur les zones Natura 2000, je pense que les chaumes, les crêtes et le travail des fermiers aubergistes ne seraient pas aussi valorisants. Et je pense que quelque part, s'il y a une zone Natura 2000, c'est qu'on reconnaît qu'il y a des habitats qui sont préservés et en bon état de conservation. Sinon, il n'y aurait pas cet intérêt. Si tout avait déjà été gâché, on n'y mettrait pas du Natura 2000. Donc, en gros, on demande aux gens, si vous vous engagez à continuer ce que vous faisiez jusqu'à maintenant et pour lequel vous ne touchiez pas d'argent, vous vous engagez à le continuer, on vous donne un petit peu d'argent. Donc c'est quand même quelque chose qui a été accepté, en tout cas le monde agricole, qui bien sûr au départ était un peu réticent par rapport à ce qui arrive et qui le vivait comme une nouvelle réglementation, donc a bien participé et on a des surfaces importantes de prairies permanentes qui sont en Natura 2000.
Moi, je vais revenir sur quiétude et attitude, sur deux points. Le premier, un exemple concret de mise en application sur nos escapades.
Et puis après. Donc, effectivement, on a créé entre 10 stations vertes du sud des Vosges, réparties sur la Haute-Saône et sur le département des Vosges, et qui étaient suffisamment rapprochées les unes des autres. On a créé une escapade à vélo, donc pour relier ces stations, créer du lien entre nous, c'est de l'animation réseau, etc. Et puis, on a demandé aux offices de tourisme de nous proposer ces liens, ces traits d'union qui passaient par les forêts pour relier ces stations. Et il se trouve qu'il y en a un des offices de tourisme, qui nous avait proposé un parcours qui passait clairement dans une réserve biologique, dans une réserve nationale, et où le règlement disait on ne crée pas de nouvelle activité. Et cette escapade était vécue comme une nouvelle activité. Donc, on s'est mis autour de la table avec l'office de tourisme, les gens du parc, et puis on a imaginé, conçu et validé un itinéraire alternatif pour contourner cette zone en réserve. Et en plus, on a trouvé un circuit qui, par rapport aux intérêts paysagers, par rapport au belvédère, était beaucoup plus intéressant que celui qui était proposé au départ. Voilà, donc ça s'est bien passé.
Par rapport à la construction de circuits d'itinérance. Et l'autre point, c'est ce que tu as dit par rapport à la région Grand Est. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Marie-Pierre sur le secteur Mossic et Vignoble, donc c'est la zone interparc, et effectivement, c'est aussi l'occasion de mobiliser sur le massif. Typiquement, on a le parc des Ballons au sud, le parc de Vosges du Nord au nord, et puis sur l'ensemble du massif, il y a un certain nombre de stations qui pourront être intéressées à travailler sur cette démarche quiétude-attitude, de façon à mobiliser les socioprofessionnels, les habitants, pour qu'effectivement, il y ait ce respect de la nature qui soit coordonné, et qu'on peut très bien imaginer sur d'autres territoires.
Les parcs ont vocation à expérimenter des choses. Et ils ont même le droit de se tromper et puis d'expliquer pourquoi ils se sont trompés et puis d'arrêter une démarche. Voilà. Et quand on expérimente et puis que ça marche, on a aussi surtout le droit de l'exporter en dehors des parcs et de l'appliquer ailleurs au bon vouloir de ceux qui veulent s'emparer de nos outils.
Oui, Thierry Le Révérend.
Dans le pavillon bleu, on est aussi en réflexion pour essayer de concilier les usages de masse de la plage, du littoral, avec le respect de la quiétude de la faune et de la flore. Et donc, c'est sensible parce que là, on est vraiment sur des concentrations très, très fortes. Et puis, on a des exemples. Les gravelots, par exemple, sont des oiseaux qui nichent à même le sol dans les graviers. Donc, si vous marchez directement sur les œufs, c'est fini. Les chiens, c'est pareil. Donc on réfléchit à ça et je me demandais dans quelle mesure vous arrivez à matérialiser une forme de frontière il doit y avoir de barrières bien sûr. Comment vous le faites parce que j'essaye de visualiser comment on peut y arriver sur un espace littoral où en gros la limite qu'il y a entre le touriste et les animaux peut être très très fine de quelques dizaines de mètres.
Oui, oui. Donc effectivement, ça passe aussi sur la connaissance, sur les habitudes des espèces. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui bougent beaucoup et on ne sait pas exactement où elles vont se trouver à un moment donné. Il y en a d'autres qui sont très sédentaires, comme le tétra en période de reproduction, on sait où il est, on sait où sont les quelques places de champs qui restent sur le massif des Vosges et on met un cordon de sécurité autour. Et dans ces cas très précis, on matérialise l'interdiction par les petits panneaux, les banderoles que vous avez vus tout à l'heure. Voilà. Après, c'est vrai que le massif est très grand et qu'on ne peut pas le faire tout partout. Donc, d'où l'intérêt d'avoir ces outils papier, cet outil numérique qui soit accessible pour le plus grand nombre tout partout. Voilà.
Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question, intervenir, apporter une contribution ?
Je baisse le volume avant de parler. Non, juste une petite question par rapport à l'engagement des médiateurs. Donc vous disiez, il y en a une vingtaine. Hein.
Pour l'instant, 8, mais ça va être augmenté.
D'accord, pardon.
Ça va être augmenté à 20, exactement.
Ouais. Quelle est leur mission? Comment ils agissent, justement, pour... Parce que je pense que c'est aussi une part importante, le travail de médiation, d'aller au contact du public et des gens qui vont sur site. Alors, comment est-ce que c'est géré? Ils sont quelque part sur site ou comment ça se...
Alors, ils sont vraiment sur le terrain, effectivement. Donc, ce sont des étudiants qui cherchent des jobs d'été. Donc, on leur rend service, on leur fait une petite formation et puis on les met sur le terrain. Ils ne sont jamais seuls, ils sont toujours au moins par binôme. Et puis, ils vont vraiment au contact des publics et des familles avec des arguments assez, on va dire, percutants, en tout cas audibles pour les publics. Ils se mettent vraiment à la portée des publics. On n'a pas, moi, j'ai pas entendu parler d'incidents par rapport à des personnes rencontrées. Bon, je vous le dis, c'est pas des gens avec des képis et des uniformes. Donc, souvent, ça passe mieux auprès du vacancier. Ils n'ont pas de carnet de contravention. Ils éduquent et puis ils font de la pédagogie. Donc, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience. Et c'est aussi là-dessus que repose ce programme. C'est que le touriste, il veut sortir plus intelligent et plus éduqué de ce qu'il a visité pendant ses quelques vacances d'été ou d'hiver, ou un long week-end, peu importe. Il veut avoir appris des choses et nos médiateurs sont aussi là pour leur apprendre des choses. Et on est vraiment basé, je le répète et j'insiste, sur la responsabilisation des publics. La personne peut être tout à fait contente de se voir interdire un secteur si on lui dit pourquoi il est interdit. Voilà, on est là-dessus. Avant, on disait n'allez pas là. Mais pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Maintenant, on dit n'allez pas là. Il y a les tétras qui sont en train de se reproduire. Il y a les chamois qui ont besoin de quiétude en ce moment. Ils viennent d'avoir les petits chevreaux, etc. etc. Donc, c'est beaucoup plus acceptable et la personne se sent fière, presque, d'avoir respecté les consignes qu'on lui a données.
7 jours sur 7 ?
Oui, en été, c'est 7 jours sur 7.
Et c'est vrai que si on prend l'exemple des parcs nationaux, je prends l'exemple du parc des Écrins, et de la région PACA, les sept PNR de PACA travaillent aussi en inter-réseau sur cette démarche de quiétude attitude avec les parcs nationaux. Et donc, c'est vrai que là, par contre, ce sont des gardes du parc national qui assurent la médiation.
Ils ont un uniforme, et dans les parcs nationaux, il y a une zone cœur de parc qui est beaucoup plus réglementaire et beaucoup plus stricte que ce que l'on peut trouver dans les parcs naturels régionaux.
Mais effectivement, dans le propos de Laurent, ce qui est intéressant, c'est... Il y a cette démarche qui est portée par les parcs, mais l'exemple de la région Grand Est qui a dit qu'elle souhaitait promouvoir cette démarche de façon plus large, donc ça veut dire que sur d'autres territoires, cette démarche-là peut être aussi portée par des collectivités, que ce soit des départements, des com-com, pour justement permettre une prise en compte, une médiation à l'éducation, à l'environnement et à la prise en compte aussi de la richesse du territoire. Est-ce que quelqu'un... Oui. Juste une chose, pensez bien aussi à vous présenter, comme ça tout le monde sait un peu qui vous êtes.
Michel Poyot, je suis de la communauté de communes Pouilly-Bligny, en Côte d'Or. Et nous, à la communauté de communes, on a une forêt, mais à un niveau beaucoup moins important que le parc des Vosges, que j'ai eu la chance de visiter, votre mille étangs, là, la semaine, il y a 15 jours. Et dans cette forêt, donc, et on essaye de mettre ça aussi en place dans les autres forêts communales, de créer des îlots de sénescence où il n'y aura aucune exploitation de bois ni de...
Pendant
à la limite,
30 ans.
Pas de visite. Est-ce que vous avez ça, vous, dans le...
Alors, on a effectivement ça dans les secteurs Natura 2000. Donc, les îlots de sénescence, là aussi, c'est un engagement de ne pas sortir effectivement le moindre morceau de bois d'un secteur de forêt qui est identifié, qui est délimité à la peinture et qui est connu. Et c'est pour une trentaine d'années. Sachant que l'État et l'Europe, par anticipation, remboursent ce que pourrait rapporter la forêt pendant ces 30 ans si elle était exploitée de façon, on va dire, normale. Voilà. Donc c'est basé sur l'accroissement potentiel de la forêt. Et puis c'est basé sur chacun des arbres qui sont identifiés avec des triangles pointant bas, qui sont conservés et qui sont répertoriés par GPS sur une carte. Et en gros, l'État vous donne, selon l'essence, selon son diamètre, 150, 200, 250 euros par arbre en début de période, et considère que c'est la valeur de l'arbre. Et pendant ces 30 ans, si l'arbre tombe, il doit rester là, il doit pourrir et accueillir d'autres espèces xylophages ou autres qui participent à la biodiversité S'il est sur pied, qu'il a des trous, il accueillera des chauves-souris, il accueillera des chouettes. Et donc, c'est le but, hein, c'est d'observer ça pendant 30 ans. On espère que ce sera reconductible. Bon, le risque pour la commune, il n'est pas énorme, puisque c'est payé par anticipation. J'ai sur ma commune, à Fauconnier-la-Mer, une forêt de 482 hectares. J'en ai mis plus de 15%, 80 hectares, en îlot de sénescence Natura 2000. Et bon, j'ai touché un petit chèque de 265 000 euros en début de période. J'ai su l'utiliser. et voilà. Et à la limite, si c'est pas reconduit dans 30 ans, tous les arbres n'auront pas disparu et je récupérerai un capital qui est toujours sur pied. Peut-être des arbres plus gros, peut-être certains auront encore plus de valeur. Et voilà. Mais l'idée, c'est que si c'est reconduit, ben, j'accepterai un second chèque. Voilà. Mais bien sûr, ces arbres, on les met à plus de 35 mètres des sentiers de randonnée parce qu'il y a des risques de chute. Et donc, on a juste cette précaution-là à prendre. Par rapport aux voies de circulation et aux sentiers de randonnée, il ne faut pas qu'ils soient trop près.
Est-ce que quelqu'un souhaite apporter ? Oui. Donc, oui, là, et puis.
Oui. Bonjour, donc Jean-Luc Garnier, Saint-Hilaire-du-Harcouët, département de la Manche. Et puis également en charge du tourisme sur la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. J'ai une première petite question dans la gestion des activités. Il a été question des activités motorisées à un moment donné. Et comment vous vous y êtes pris un petit peu vis-à-vis de ces pratiquants-là ? Parce que je pense aux motos et aussi parce qu'on est confronté à ce sujet-là, nous, sur nos GRS, avec les quads.
Alors, moto, quad, et puis ça arrive aussi, le quad électrique et moto électrique. C'est quelque chose qui se développe à grande vitesse. Alors bon, bien sûr, on a déjà le premier souci, c'est lorsque ces pratiquants arrivent des vallées et qu'ils montent sur la crête et qu'ils considèrent que les routes départementales qui permettent d'accéder à la crête sont un circuit de course où ils vont tester la tenue de route de la moto et où ils vont aussi actionner la poignée des gaz. Et on sait que les motos, c'est terrible dans les territoires de montagne, ça résonne énormément. Donc on a eu de gros soucis l'an dernier à la fin du confinement. Et bien sûr, l'habitude était de dire, oh, c'est pas nous, ce sont les Allemands. Sauf que nous, on a été déconfinés avant les Allemands et que les motos qu'on a vues dans les semaines qui suivaient qui accédaient au massif, c'était bien des immatriculés en France. Hein. Et là, par contre, il faut qu'on travaille avec les départements, les conseils départementaux. On est sur des départementales. Il faut déjà essayer d'harmoniser la réglementation avec une vitesse limitée qui soit la même quand vous êtes dans le Bas-Rhin, dans les Vosges, dans la Haute-Saône, etc. Parce qu'il y a des secteurs à 70, des secteurs à 80, des secteurs à 90. Là, on a réussi à mettre toute la route des crêtes à 70. Les départements, on les a mis autour de la table. Et on a souvent cette légitimité-là, le parc, lorsqu'il y a quelque chose qui dépasse les limites d'un département, d'une région, comme on est sur les quatre et sur deux régions, on nous confie souvent le bébé. Ce n'est pas toujours des questions faciles, mais on se met autour de la table et on sort des solutions. Donc par rapport à ça, et sur les départementales, la limitation à 70, avec des radars de bruit, détecteurs de bruit, qui sont positionnés à certains endroits stratégiques, qui pour l'instant sont pédagogiques, mais qui un jour seront sans doute répressifs, comme les radars de vitesse, c'est la seule solution, hélas, par rapport à certains publics. Je ne veux pas stigmatiser les pratiquants de la moto, on a sans doute 80% ou plus qui respectent et qui se promènent avec leur petite Harley Davidson, enfin, ou grosse Harley Davidson d'ailleurs, mais qui fait son bruit un peu sourd et qui ne dérange pas forcément. Et puis il y en a d'autres qui considèrent que la route des crêtes est un circuit de sport, et ça, c'est plus dérangeant. Ensuite, dans les peuplements, en dehors de ces routes, sur les chemins, en général, tous les véhicules à moteur thermique sont interdits. Voilà. Après, c'est de la répression, il y a des gardes dans les réserves, et donc il y a des amendes qui sont données. Par rapport aux activités organisées, ça peut être un rallye, dans le rallye d'Alsace, on a quelquefois le Tour de France automobile, des choses comme ça. Bien sûr, il reste sur les routes départementales, ça fait toujours débat, mais si c'était des activités qui existaient historiquement, on a vocation à les tolérer. Par contre, on ne va pas créer de nouveaux rallyes dans des zones de quiétude pour qu'il y ait d'autres jours dans l'année où il y a trop de bruit sur le massif. Quoi. On doit aussi trouver un juste équilibre par rapport à ça. Et puis, il y a un vide juridique. C'est par rapport, je le disais, aux nouveaux véhicules électriques qui qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui dérangent quand même parce qu'ils peuvent, ils permettent d'aller tout partout. Ils sont vraiment tout terrain. Et ils ont une autonomie telle que les gens peuvent passer une journée complète au plein cœur des massifs. Et ceux-là, ils vont faire du dégât, d'où l'application de ce programme.
C'est vrai que l'émergence à la fois du vélo assistance électrique, du VTT assistance électrique et des trottinettes qui effectivement circulent partout, et notamment sur les massifs, mais je pense qu'en plaine, on doit retrouver les mêmes problèmes sur d'autres territoires. C'est un produit émergent, mais à gérer aussi. Est-ce que quelqu'un d'autre ?
Oui. Juste sur votre deuxième point, c'était... Nous, sur notre territoire, on a la baie du Mont-Saint-Michel. Et on évoquait l'exemple des oiseaux qui nichent au sol. Et c'est aussi une vraie problématique à laquelle on est confronté, parce que, notamment du printemps à l'automne, en fait, on a les espèces protégées qui nichent au sol dans toute la baie. Là. Et c'est un vrai souci parce qu'on a une fréquentation importante en été de la baie, notamment avec les gens qui veulent faire les traversées. Donc c'est entre 200 et 300 000 personnes en fait, hein, qui pratiquent sur le territoire. Et la communication n'est pas forcément facile. On y réfléchit. Alors avec les multiples acteurs, parce que dans ce genre de situation, de multiples acteurs concernés, parce qu'on est aussi zone Natura 2000, c'est aussi le conservatoire du littoral qui intervient. On est aussi en périmètre classé UNESCO, ce qui veut dire qu'on a la DREAL aussi qui est très réticente à mettre des panneaux, qui ne supportent pas les panneaux d'information, en fait. Donc c'est une vraie problématique. Très contradictoire en fait, puisque comment on fait pour informer lorsque on a des interdits de ce type-là en fait.
Alors du coup, peut-être qu'un programme comme celui-là, avec site internet, avec cartographie précise des lieux, et puis canalisation des flux, hein, donc ça aussi pour orienter les publics là où ils vont pas faire trop de dégâts, est peut-être quelque chose d'applicable hein, sur ce territoire comme sur d'autres. Chez nous, le Grand Tétra aussi niche au sol. Et donc le public peut faire du dégât et on a un nouveau public qui arrive et qui se développe, c'est les sangliers. Les sangliers qui sont omnivores mais qui peuvent effectivement, lorsqu'ils tombent sur une couvée ou une nichée, la dévorer tout simplement. Voilà. Donc on a aussi à gérer ça. Et ils ne lisent pas les panneaux, eux.
Et ça renvoie effectivement aux quatre sphères qu'on évoquait hier, c'est-à-dire la sphère des élus, donc qui eux prennent les décisions. La sphère des socioprofessionnels sur lesquels s'appuyer, ainsi que la sphère des habitants sur lesquels on peut s'appuyer pour passer le message, pour faire en sorte qu'il y ait cette médiation et que chacun prenne conscience. Bon, l'habitant, qui soit aussi, puisqu'on évoque toujours que l'habitant est le premier hébergeur, et ensuite le prestataire, que ce soit hébergeur ou restaurateur, qu'il puisse expliquer, informer les clients en leur disant ben, attention, n'allez pas dans cette partie-là parce que actuellement c'est une zone où il faut laisser la quiétude aux. À la faune et la flore.
Oui. Claude Keller, je représente la Fédération du Club Vougin. Nous balisons 20 000 km de sentiers sur 7 départements dans l'est de la France, dans le Grand Est. Et l'objectif de la Fédé, c'est de réduire un petit peu ces kilomètres de sentiers pour respecter un peu la quiétude des animaux et ne pas créer des sentiers pour créer des sentiers. L'objectif est de réduire un petit peu pour la clôture des animaux. Voilà.
Le Club Vosgien est un partenaire historique hein, du Parc des Ballons, incontournable dans le massif des Vosges. Et effectivement, on travaille beaucoup avec Alain Fersler, hein, votre président. Et puis localement, on a Joseph Peter qui est dans notre comité syndical de parc et qui apporte sa contribution.
Oui.
Oui, bonjour. Bonjour, Gwenola de Harojo, donc en Bretagne, Centre-Bretagne. Moi, j'avais une question, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, mais on nous a imposé, le département du Morbihan, sans réelle concertation, la mise en place d'une réserve biologique intégrale sur un site touristique au cœur d'une forêt de 3500 hectares. Alors, la réserve biologique intégrale ne concerne que 110 hectares. C'était un lieu qui avait été fléché depuis de longues années, je vous parle de 40-50 ans, ben comme un lieu pour le ramassage des champignons, pour les courses d'orientation avec la Fédération française d'orientation. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous est tombé sur la tête comme ça. Aujourd'hui, ben, les gens, même les locaux, n'ont pas été informés, ne savent pas vraiment ce que c'est, donc ils continuent évidemment à pratiquer. Donc, pour rappeler réserve biologique intégrale, là, on vous met sous cloche. Pendant 100 ans, vous n'avez même pas le droit de marcher dans la forêt. Donc, je voulais savoir si dans la salle, il y avait d'autres exemples et comment vous gérez ça par rapport à la pédagogie, la médiation. Parce que voilà, on l'a, on va faire avec. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous a été imposé comme ça. Et en plus, ce n'est pas justifié par rapport à la typologie de la forêt.
Alors, je pense que le département est au moins propriétaire des lieux pour pouvoir y imposer sa réserve. Sinon, ça ne s'impose pas à autrui. Et donc, après le niveau de concertation, je ne sais pas ce qui a été fait sur le terrain, mais je pense que la réponse est un peu dans votre question. S'il y a 100 hectares sur 3500, il en reste quand même 3400 où on
non,
peut
alors
encore faire des choses.
Cette forêt est majoritairement privée. On a des conventions avec le propriétaire de la forêt. C'est quelqu'un de très ouvert hein, qui autorise tout type de randonnée, sauf VTT, mais voilà, c'est fait comme ça. Il a aussi des concessions de chasse. Donc, ça veut dire que lui, il a réussi quand même à négocier sur la RBI la continuité de la poursuite de chasse. Voilà.
Ça mais peut nous, être une activité nécessaire aussi voilà. Pour l'équilibre.
Voilà, c'était plus par rapport à la concession. Voilà. C'est normal, il faut bien qu'ils vivent, hein, et qu'ils entretiennent leur forêt. Mais non, c'était juste pour savoir s'il y a eu en France des exemples de
aussi, ouais.
Comment on peut mettre en place plutôt de la médiation, de la pédagogie, ouais. Accueillir les publics. Enfin, on nous a imposé ça sans nous donner les, je vais dire, la méthode ouais. Ou les outils pour accompagner.
On a ça aussi sur le parc naturel régional des Ballons des Vosges, bien sûr, avec notamment une forêt, celle du massif du Grand Ventron, à 1200 mètres environ. Et c'est une vieille hêtraie où il y a certains secteurs de cette forêt très accidentés qui n'ont pas connu d'intervention humaine depuis 100 ans ou 3 siècles même, pour certains secteurs. Et donc, ça vient d'avoir une reconnaissance UNESCO aussi pour des vieilles hêtraies, et donc où il y a une faune dans ces arbres-là, très âgés, blessés, avec des trous donc, qui accueillent vraiment des populations très, très, très rares et assez exceptionnelles de chiroptères et de chouettes de montagne. Et donc, bon, ça existe, mais c'est bien toléré. Déjà, on est dans une propriété de l'État. Donc, l'État, en gros, il est chez lui, donc il n'a pas imposé à des communes quelque chose. Certaines communes peuvent le mettre en place et le demander. Voilà. Après, pour votre cas, est-ce que ce n'est pas une mesure compensatoire qui a été demandée au département par rapport à un grand projet de développement qu'il a fait par ailleurs? Parce qu'il y a aussi l'éviter... réduire, compenser qui s'applique. Et quelquefois, les mesures compensatoires peuvent se traduire par ce type de réserve qui protège la biodiversité.
Non, pas vraiment, parce qu'il faut savoir que cette forêt, c'était des anciennes forges. Donc, ce n'est pas une forêt ancienne, c'est une forêt nouvelle. Donc, nous, on a un peu d'incompréhension, même le forestier, le propriétaire de la forêt de l'autre partie, on va dire, moins les 100 hectares, là. On a vraiment du mal à comprendre. Mais moi, ce n'est pas, bon, maintenant, c'est fait, mais c'est de savoir, est-ce que en France... comment vous abordez, parce qu'on ne peut pas empêcher les gens d'être autour au moins, on va pas la les 100 hectares ne vont
non,
pas être
compliqué.
Barricadés.
Alors les accès principaux peuvent être effectivement matérialisés avec des interdictions, et puis il faut aussi prévoir les contournements de cette zone par le public. Quoi. Je pense que ça doit être dans le règlement de cette réserve. Ça demandera sûrement un peu de temps, un peu de pédagogie, il faut que de nouvelles habitudes soient prises. Voilà, c'est ça, c'est du réglementaire. Là, c'est voulu par le département. Il a sans doute touché également de l'argent pour avoir mis ça en place. Et donc, c'est à lui de faire respecter la réglementation qui s'impose et qui a justifié ce qu'il a pu toucher pour cette préservation.
Et nous, on a affaire aussi aux riverains, aux gens qui vivent sur cette commune. Et là, le département n'est pas là. C'est nous qui gérons. Nous, en plus, on a un site qui appartient à notre communauté de communes, qui est une plage avec un camping, un restaurant... des activités nautiques qui touchent cette RBI qui autrefois était un sentier tout simplement de randonnée, de ramassage de champignons avec carte. Enfin, tout était bien calé. Et puis, ce n'est pas un lieu touriste de masse. Hein. Nous, on est au milieu de la Bretagne. Voilà. Donc, enfin, moi, je voulais quand même en parler parce que c'est des choses, vous voyez, qui sont quand même
oui,
un
oui.
peu contraignantes.
Après, il peut y avoir plus ou moins de tolérance. Nous, on a une réserve nationale, celle des ballons comtois, sur la planche des Belles-Filles et le ballon d'Alsace. Et donc, il y a un chemin qui relie les deux sommets, qui fait 12 km. En hiver, c'est une piste de ski de fond. Donc, le ski de fond est toléré, bien sûr, il ne faut pas s'en écarter. Et puis, en été, c'est une piste de randonnée. ça aussi c'est accepté. Voilà, il y a plusieurs niveaux de réglementation et on compte là aussi sur les bonnes intentions du public et de respecter la signalétique qui est mise en place.
Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Oui.
Oui. Bonjour, Bernard Mahé, donc Lanvalet en Bretagne, et donc près de Dinan. Et donc une petite question, vous avez peut-être parlé tout à l'heure un petit peu de votre rapport avec la Chambre d'agriculture pour la préservation de la biodiversité de ces faunes.
Donc, bon, ben, c'est à travers Natura 2000, le programme Natura 2000, qu'on a donc par rapport à l'outil de production, par rapport aux prairies, par rapport donc à ce qu'on peut faire, par rapport à des programmes de fauche tardive, pour que les espèces en place dans ces prairies puissent fructifier, parce que certaines espèces ne se reproduisent que par reproduction sexuée, et non pas par reproduction végétative, comme certaines autres. Et si on veut maintenir un bon mélange d'espèces qui est garant d'une bonne qualité de lait et d'un bon minster derrière, il faut aussi, j'allais dire imposer, mais rappeler surtout aux agriculteurs, à qui on n'apprend rien, ils connaissent leur métier, ils l'aiment, qu'il faut qu'ils respectent certaines règles pour pouvoir prétendre, d'une part, à des subventions compensatrices, mais aussi valoriser leur production au maximum et en faire des produits que nous pourrons marquer parc après, donc leur apporter la marque valeur parc dont Michael Weber parlait hier, donc pour reconnaître une certaine éthique par rapport aux trois piliers. Il y a également un volet social par rapport à cette marque parc, un volet préservation de la nature et un volet énergétique. Et donc on leur donne la marque parc, on travaille avec eux parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà mangé dans des fermes auberges sur les crêtes, mais souvent, après un bon repas, on a envie d'une petite balade. On a créé des circuits au départ de chacune des fermes auberges, donc de quelques kilomètres, pour petite balade apéritive ou digestive, c'est selon. Donc ce sont vraiment des partenaires. On a par exemple aussi l'arnica qui pousse sur les chaumes naturels. On a créé tout un programme avec des laboratoires importants, dont le Velleda, qui permettent aujourd'hui de récolter de l'arnica. Alors à une certaine période, quand il est suffisamment épanoui, et en ne récoltant pas toutes les plantes, voilà, et on en garde pour que ça puisse également perdurer et pas épuiser totalement la ressource. Donc on est vraiment on est un parc, c'est un outil de protection, mais c'est un outil de développement. Il faut utiliser au mieux les ressources que nous propose le territoire. Ça peut être des plantes, ça peut être des paysages. Ça peut être de la pierre, de l'eau. Et aujourd'hui, vis-à-vis des agriculteurs, on a un gros programme sur l'herbe. L'herbe qui est quand même non délocalisable et qu'on doit mettre en valeur à l'échelle de notre parc.
Plus de questions ? Ben, merci.
Merci à vous.